j'ai invité une quinzaine d'humains sur une petite île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, l'île aux grues. Des gens du monde de la recherche, du monde de l'innovation, du monde de l'entrepreneuriat. On parle des choses qu'on aime, des choses qui nous passionnent, aussi des choses qui nous dérangent. On parle de l'avenir du Québec. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. Bienvenue au Lac à l'épaule. Si vous êtes assidu du balado Lac à l'épaule ou vous découvrez le projet aujourd'hui, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez les épisodes. Dès que vous entendez quelque chose d'intéressant, appuyez sur le petit cœur, ça nous aide à nous faire découvrir. On a aussi des épisodes sur YouTube en vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Oui, vous abonnez parce que vous ne voudrez pas manquer ces épisodes qu'on a tirés de ce lac à l'épaule sur l'île aux grues. On a une grande discussion qu'on appelle un fishbowl ou un cercle de Samoan. Une discussion à 15 personnes, mais qui est extrêmement intéressante, extrêmement dynamique. On a un épisode complet sur la valorisation de la recherche, que ce soit dans les universités, les collèges, dans le domaine privé également. On a une discussion vraiment éclairante sur le design, le rôle d'un designer en innovation. Une discussion sur l'entrepreneuriat scientifique également et la place très méritée là, des femmes dans le domaine de l'enseignement puis de la recherche et de l'entrepreneuriat. On a une discussion sur les technologies de pointe et l'industrie créative aussi, deux grandes forces qu'on a au Québec. Une discussion sur la santé mentale, une discussion très touchante, particulièrement la santé mentale des entrepreneurs. À quel point ça peut être très difficile puis parfois même cruel comme domaine. Donc, manquez pas ça. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'écouter les présentations. J'ai fait un montage là, de quelques moments forts, là, puis tout de suite après, vous allez avoir l'intégrale là, de ces présentations-là où tous et chacun là, se présentent un peu leur personne et leur organisation. Et je leur ai demandé, toi, à quoi tu penses pour l'avenir du Québec? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux pour notre société? Donc, ça va vous donner le ton pour le reste aussi des entrevues qu'on a faites à ce lac à l'épaule assez épique sur l'île aux grues. Un dernier petit mot pour vous dire que Lac à l'épaule est une production en collaboration avec le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Je le répète, mais c'est tellement important, on veut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, ben c'est peut-être vous. Bonne écoute.
Moi, c'est Nicolas Routier, donc je suis entrepreneur technologique.
Je m'appelle Bertrand Neveu, je suis un entrepreneur technologique.
Je suis Valérie Henner, je suis directrice de Quantino, un incubateur en haute technologie.
Marie Gagné, je suis présidente directrice générale du réseau des CCTT.
Marine Thomas, rédactrice en chef de Les Affaires.
Je m'appelle Louis-Félix Binette, je suis directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Communément appelé MAIN.
Diana Orquet, directrice exécutive des V1 Studio.
Adia Koukoui, directrice exécutive de Studio V1.
Je m'appelle Guillaume Blum, je suis professeur à l'école de design de l'Université Laval.
Sabrina Hombourger, je suis professeure de marketing à l'Université TELU.
Moi, c'est Coriel Boffy, je suis directeur principal en société et culture chez Axelis.
Alors, Marie-Pierre Cossette, je fais partie de la direction au Grand Défi de Société, au Bureau du scientifique en chef.
Je m'appelle Franck Barrette, je suis professeur titulaire à HEC Montréal.
Jean-Michel Lafontaine, coordonnateur événementiel, en fait, espace de collaboration au sein du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec.
Charles-Olivier Roy, je suis baladeur en résidence chez le Mouvement des accélérateurs d'innovation. Puis le projet Lac à l'épaule, ben, c'était un peu une folie, tu sais, me dire, bon, on va essayer quelque chose d'autre. Ce projet-là est un peu fou parce que l'idée à la base, c'était de donner du temps aux gens, tu sais, de les sortir de leur quotidien, d'une vie de fou pour à peu près tout le monde, puis de les amener dans un endroit complètement reclus, là, tu sais, se sortir de notre quotidien, puis d'offrir du temps aux gens pour venir discuter, parler, puis apprendre, tu sais, des autres aussi. Puis
pour 8 millions d'habitants, on fait déjà vraiment très bien. Je pense qu'il y a toujours de la place à amélioration, mais à la banque, je trouve quand même qu'on a tendance à être un peu dur sur nous-mêmes. Je pense qu'au contraire, on devrait voir qu'on est déjà très, 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 très bien parti. Maintenant, je pense qu'on peut être plus audacieux, avoir un peu plus d'audace aussi, de penser différemment. On n'est pas obligé de copier les modèles d'ailleurs.
La culture québécoise, les valeurs québécoises sont universelles. Le monde, je crois, serait meilleur avec plus de valeurs québécoises. Donc,
on a accès à un système d'éducation puis un système de la santé qui sont vraiment formidables. Puis, ça nous aide à réduire les écarts de richesse. Puis il faut qu'on continue à s'investir et à investir dans la santé et l'éducation. Et le reste suivra probablement, je l'espère.
Mon rêve pour le Québec, c'est vraiment de se donner un projet de société. Je pense que l'hydroélectricité, ça a été un projet mobilisateur, porteur, qui nous a permis de nous projeter dans l'avenir. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on se donne ensemble un nouveau projet. La clé, je pense que c'est la co-construction.
Mon rêve pour le Québec, ce serait une grande mobilisation collective pour relever ensemble le défi qui nous attend et qui est, sans contredit à mon avis, le défi du 21e siècle, qui est la grande transition écologique qui nous attend. Et je pense que le Québec est très bien placé pour relever ce défi-là, en tout cas pour apporter des pistes de solutions. Et mon rêve, c'est qu'on se mobilise ensemble, que les entreprises privées cessent de faire partie du problème mais deviennent au cœur de la solution et qu'ensemble, le public et le privé et les citoyens se mettent ensemble pour apporter la première pierre à ce grand défi qui nous attend.
Une des clés, je pense, pour relever ce défi-là comme nation, dans le grand concert des nations, c'est l'entrepreneuriat. Je suis convaincu que si on permettait à chaque Québécois, à chaque Québécoise, particulièrement les jeunes, partout sur le territoire, où qu'ils soient nés dans une famille entrepreneuriale ou non, si on leur donnait la capacité de rêver grand, de transformer leur indignation, leur observation, leur frustration, leurs désirs, leurs ambitions, dans une capacité de changer le monde, on serait capable de s'équiper, puis graduellement, de devenir des proposeurs nets d'un monde meilleur.
Pour moi, toujours l'empathie, les côtés humains. Je crois que si on prend le temps de s'écouter, de comprendre qu'est-ce que les autres vivent, on va pouvoir mieux développer des solutions pour pouvoir les aider et qu'on devient, on puisse ouvrir des portes pour tout le monde.
Alors, pour le Québec, ce dont je rêve de beaucoup de choses, mais entre autres d'avoir plus de femmes en entrepreneuriat scientifique et technologique. Ça pourrait donner une nouvelle saveur, une nouvelle manière d'innover aussi pour le Québec.
Ben, le design, d'une certaine façon, c'est une réponse à cette question. C'est amener du sens à cet enjeu, en fait. Quelle innovation qui est importante étant donné les défis multiples auxquels on va avoir à relever dans le futur. Évidemment, un designer ne sera jamais la seule solution, mais il peut contribuer à faciliter et à traduire différents éléments techniques, le langage de l'ingénieur, le langage de différents experts, en fait, dans un usage, un produit, un service, des méthodes de gestion qui vont être adaptées aux besoins de la société.
Construire cette société de demain, former les gestionnaires de demain, c'est effectivement travailler sur des modèles d'affaires pour les futures organisations, un petit peu alternatifs au modèle dominant très capitaliste. On est quand même au Québec, le pays qui a inventé des modes organisationnels comme la coopérative, dont on parle partout dans le monde.
Les Québécois, on a une caractéristique qui, je pense, est partagée entre la plupart de nous tous et qui est reconnue à l'international, c'est qu'on est des pros de la collaboration. Donc, on est des personnes bienveillantes le plus souvent. Et on essaie vraiment de collaborer ensemble et dans une perspective de consensus. Donc, c'est en maximisant la diversité des ressources et la mise en commun de ces diverses ressources-là que je pense qu'on va avoir notre marque sur la prospérité économique, sociale, ou des changements climatiques dans le futur.
Moi, j'aimerais que pour le Québec, on s'appuie sur la recherche, oui, mais on fait confiance aussi au savoir expérientiel. Il y a toutes sortes de noms, là. C'est savoir endogène, savoir, de pratique. Mais c'est important d'amener des personnes citoyennes venir s'asseoir avec des chercheurs, de sortir le chercheur pour qu'il aille s'asseoir avec des personnes citoyennes. Quand ils ensuite nous racontent ce qu'ils font ensemble puis qu'est-ce qu'ils essayent de comprendre puis de connaître puis de développer, c'est une toute autre... c'est merveilleux, c'est différent, c'est déstabilisant, ça nous amène ailleurs. Puis en soi, c'est audacieux. Ça inspire. Puis il y a certaines personnes qui ont le goût d'attraper ça puis d'aller encore plus loin. Donc, je nous souhaite de laisser ces collisions-là arriver.
Et une fois de plus, de pouvoir croiser les regards et de pouvoir outiller le mieux possible, en tout cas un partage ou un transfert de connaissances, mais également de la recherche pour faire, on va dire, rayonner le Québec et aussi aller chercher ce qu'il y a de meilleur ailleurs pour pouvoir, et une fois de plus, pour faire en sorte que le Québec puisse rester en particulier un acteur très important dans la réussite scolaire et avec des modèles universitaires qui peuvent faire, on va dire, des jaloux ailleurs dans le monde.
Mais j'ai découvert un secteur et surtout un écosystème qui est très vivant et qui est beaucoup plus grand que ce que je croyais au Québec. Les accélérateurs, incubateurs, en fait, tout le vocabulaire en ce qui a trait à l'écosystème des startups au Québec m'était inconnu. Et je me rends compte qu'au final, on a quelque chose de grand entre les mains au sein de la province, qu'il faut écouter les régions. On a quelque chose de grand ici, les régions sont importantes, Montréal est important, mais ce qui se fait dans le bas du fleuve, ce qui se fait aux îles de la Madeleine, ce qui se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean est tout aussi important. On vise des secteurs différents, on vise des domaines un peu plus dans la foresterie, dans les aspects maritimes, dans la technologie, certes. Et ça peut être eux qui vont amener plus loin la réflexion et qui vont permettre justement aux entreprises de demain de grandir plus rapidement et de devenir en soi des fleurons au Québec.
Donc, je pense que c'est ça qui est notre grande richesse aussi, là, tu sais, d'avoir un savoir collectif, mais d'être capable aussi de rester humble avec tout ça, puis d'être généreux aussi envers les autres, puis d'accepter de venir, tu sais, vous avez tous des vécus, des expériences, des statuts, des positions dans la société, mais vous avez accepté de venir dans un lieu... ben, écoute, on n'est pas au Hilton 5 étoiles, là, on est ailleurs, mais on vient chercher quelque chose, puis je suis convaincu que vous allez retourner à la maison avec une petite différence, un petit changement dans tout ça. Il y en aura toujours des problèmes, là, mais il y en a qui sont plus urgents que d'autres. On a parlé beaucoup des changements climatiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la jeunesse, les jeunes, les enfants. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Puis si aujourd'hui, on travaille à bâtir un monde meilleur, mais tu sais, nous autres, il nous en reste de moins en moins, mais eux autres, ils en ont encore beaucoup. Donc, pour moi, c'est super important qu'on lègue quelque chose à notre prochaine génération puis l'autre suivante qui sera un petit peu moins pire que qu'est-ce qu'on a eu. Fait que voilà.
C'est maintenant le temps de vous présenter la petite bio de chaque participante et participant tour à tour, ainsi que leur présentation qu'ils ont faite devant le groupe à ce lac à l'épaule sur l'île aux grues. Donc, bonne écoute. Nicolas Routier, président de Mindtrick Innovation, coach d'affaires et ambassadeur de l'organisme Relief. Nicolas est un coach d'affaires spécialisé dans les startups technologiques. Couru et très apprécié, son approche humaine et empathique n'est pas étrangère à son expérience entrepreneuriale. D'abord banquier d'affaires, il cofonde Sensio Technologies au tournant des années 2000. Avec de multiples brevets en poche et ayant fait une entrée en bourse avec grand succès, notamment caisse de dépôt comme actionnaire, Sensio a tout ce qu'il faut pour que la démocratisation de la télé 3D passe par une technologie québécoise. Le plan de match est ambitieux, d'abord embarquer la technologie sur les microprocesseurs dans les télévisions et ensuite multiplier les preuves de concept que l'avenir passe par la 3D. L'avenir de la télé passe par la 3D. Alors, convertir les contenus existants au cinéma et à la télévision pour les rendre disponibles sur leur propre plateforme de télé en streaming. LG, Samsung, Vizio, Panasonic sont dans le coup. La finale du Coupe du monde de soccer et le championnat de la NBA en direct en 3D dans 35 pays. Des contenus de Disney, Paramount, Universal, Pixar, DreamWorks sont sous licence et disponibles sur 3DGO. Chaque étape du plan est livrée avec doigté. Pourtant, en mai 2016, le signal de Senso est coupé. L'entreprise est mise en faillite. Menace de mort de boursicoteurs qui ont tout perdu. Suicide d'un des cofondateurs. L'inévitable honte de l'échec. Monument de résilience entrepreneuriale, Nicolas entretient encore son rêve avec Cubic Space, son plus récent brevet accordé en Chine, après les États-Unis et la Corée du Sud.
Bon, ben bonjour, moi c'est Nicolas Routier, donc je suis entrepreneur technologique et aussi coach et accompagnateur d'entrepreneurs technologiques, puis aussi ambassadeur de... ambassadeur relief pour le bien-être mental des gens d'affaires et des entrepreneurs spécifiquement. Donc, ce que je fais dans la vie côté technologique, mais je suis très impliqué dans la stéréoscopie, la 3D, donc la 3D relief, des trucs qui sortent de l'écran, à l'intérieur de l'écran. Donc, je suis un passionné de 3D depuis que je suis tout petit. J'ai monté une entreprise technologique de rien à l'époque. Je l'ai amené, on est devenu public, on a vécu toutes les belles choses et les extraordinaires aventures à ce niveau-là. Et puis, après, les télé 3D sont disparues et ça a emporté la compagnie avec elle. Donc, plein de leçons de vie à travers tout ça, plein de belles aventures, mais aussi des trucs beaucoup plus difficiles. Puis aujourd'hui, en tant que coach d'entrepreneur, je peux les accompagner à travers différents cycles. Puis je peux aussi mettre l'accent sur faire attention à soi, comment penser à soi à travers tout ça, comment vivre à plein son parcours entrepreneurial tout en restant, grounded en bon français et de penser à son bien-être personnel. Donc, côté innovation, ce que je pense qui est... qu'est-ce qui manque au Québec? Je ne sais pas si on peut parler de manque. Hier, je parlais justement du fait que je trouve quand même, puis je le répète, je trouve que pour 8 millions d'habitants, on fait déjà vraiment très bien. Je pense qu'il y a toujours de la place à amélioration, mais à la base, je trouve quand même qu'on a tendance à être un peu dur sur nous-mêmes. Je pense qu'au contraire, on devrait voir qu'on est déjà très, 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 très bien parti. Maintenant, je pense qu'on peut être plus audacieux, avoir un peu plus d'audace aussi, de penser différemment. On n'est pas obligé de copier les modèles d'ailleurs. Je pense qu'on peut penser de manière originale. Je pense qu'on peut penser à... différentes façons de financer, mais différentes façons d'entreprendre. Je pense qu'on est capable de penser les choses autrement. Et il ne faut pas avoir peur de notre identité puis de faire les choses différemment. Je pense qu'on n'est pas juste créatif au Québec. Je pense qu'on est très inclusif. On est très ouvert sur les autres. On n'est pas hégémonique, contrairement à d'autres civilisations, d'autres cultures qui veulent dominer, écraser, etc. Je pense qu'il faut réaliser que nous, on a une capacité à intégrer un paquet de trucs. Puis je pense que c'est important de le célébrer, ça, puis de trouver une façon d'intégrer ça à même notre propre modèle d'entrepreneuriat. Donc, voilà.
Bertrand Neveu est cofondateur et partenaire de Triptych Capital, un fonds de capital de risque pour les industries créatives au Québec. Bertrand a grandi avec une manette de jeux vidéo à la main. Il se fait appeler Bert, peut-être un hommage à Q-Bert, l'un des tout premiers jeux vidéo presque en 3D. Il a aussi grandi dans une famille où la culture entrepreneuriale est très, très forte. Ces deux éléments, le jeu vidéo et l'entrepreneuriat, ont été fondamentaux pour le parcours d'un gamer qui rêvait de faire l'ultime interface de jeu vidéo, la réalité virtuelle. Suite à un bac en ingénierie logicielle à l'Université de Sherbrooke, il a fait ses premiers pas dans l'univers hardware chez un leader international en vision numérique. Dès 2005, il fonde sa start-up Vervana. Et comme il se doit, c'est dans son sous-sol où il passera l'essentiel des prochaines années. De nature ambitieuse, son objectif est de vendre sa technologie aux plus gros joueurs possible. Son plan de match est clair, ça sera Microsoft ou Apple. En 12 ans, Vervana a surmonté toutes les barrières technologiques, logicielles, matérielles et financières. Et la consécration viendra en 2017, en plein cœur du Nevada, au CES, le Consumer Electronics Show. C'est la Mecque planétaire de la technologie. Totem, son appareil de réalité virtuelle, est désigné Tom's Hardware Best in Show, C'est l'équivalent de la Coupe du monde des geeks. Quelques mois plus tard, la rumeur court. La compagnie au logo en forme de pomme aurait acheté Vervana. Il ira passer quelques années en Californie au siège social d'Apple. Il sera de retour au Québec où il va s'impliquer comme investisseur et mentor. Très soucieux que la voie qu'il a pavée serve au prochain, il cofonde Triptych, ce fonds d'investissement en capital de risque qui est dédié à exclusivement à l'industrie créative. Une industrie où le Québec est champion, mais le financement est toujours très difficile.
Bonjour, je m'appelle Bertrand Neveu. Je suis un entrepreneur technologique qui a œuvré dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée. J'ai roulé ma bosse 12 ans avant de continuer l'aventure en Californie avec Apple. J'ai eu beaucoup d'acquis et de blessures de guerre dans ce parcours. Et puis là, maintenant, je suis impliqué dans le capital de risque chez Triptych Capital. On finance des compagnies dans les industries créatives, autant au niveau des outils créatifs, des marketplaces, tout ce qui a rapport au immersif, réalité virtuelle, réalité augmentée, Web 3, ainsi que ce qu'on appelle le fan engagement, donc où on des outils permettent de créer des liens entre les créateurs et le public. Ce que je crois au niveau de l'innovation pour le Québec, je crois qu'on a atteint une maturité où il ne faut pas avoir peur de nos ambitions. Historiquement, on a été beaucoup une société qui a fait des services. On a beaucoup appris de ça. On a un super système d'éducation. Je crois qu'après Boston, Montréal et l'agglomération où il y a le plus d'universités, où on crée beaucoup de domaines spécialisés. Il y a une opportunité dans la transformation du web. Donc, on est passé d'un web plus vers le mobile. Maintenant, ça va être un web immersif avec le métavers où le 3D va venir de plus en plus omniprésent. Donc, je crois qu'on a tout le talent pour exploiter cette opportunité. Donc, la culture québécoise, les valeurs québécoises sont universelles. Le monde, je crois, serait meilleur avec plus de valeurs québécoises. Donc, je crois que le Meta est une opportunité pour exporter cette ressource-là. Et puis, on a le talent pour créer une plateforme qui nous ressemble au lieu d'être un peu à la solde des grands groupes américains. Donc, c'est un peu par ça qu'on veut faire partie de l'équation chez Triptych Capital, financer des entreprises qui vont faire partie de cette révolution-là.
Valérie Henner est directrice chez Quantino, un accélérateur d'entreprises dans haute technologie associé à l'Institut national d'optique. Comment expliquer le passage d'une carrière remarquable dans l'industrie du jeu vidéo et des divertissements numériques à celle d'accompagnement de start-up en quantique, neurosciences, technologie médicale et autres deep tech, plutôt hardware? Peut-être est-ce une idée préconçue que le divertissement numérique n'est que du software. La réalité, c'est que les appareils et les technologies les plus avant-gardistes sont toujours nécessaires aux productions qu'on dit « next-gen ». Celles qui rendent possible les univers toujours plus fous des artistes de l'industrie. C'est surtout aussi parce qu'au fond des chercheurs et des scientifiques se cache une âme d'artiste qui rêve d'un monde meilleur. Pour Valérie, gameuse qui a fait sa place dans un univers masculin, c'est l'expérience qui doit compter. Et avec sa vaste expérience au service d'une des plus grandes expertises du Québec, celle de l'optique photonique et des hautes technologies, ça promet.
Bonjour, je suis Valérie Henner, je suis directrice de Quantino, un incubateur en haute technologie qui a été créé et propulsé par INNO en février 2020, disons. Alors, on accueille des entrepreneurs qui œuvrent en optique photonique, hardware, technologie quantique et technologie médicale. On les prend à partir d'un prototype et on les amène jusqu'à l'industrialisation de leur projet en mettant des infrastructures à leur disposition, des experts, des scientifiques d'INO, des collaborateurs dans le médical ou dans les autres secteurs d'activité. Je viens du jeu vidéo, donc j'ai étudié en publicité sociale, travaillé sur les messages et en technologie de l'éducation pour me retrouver comme productrice en jeu vidéo pendant 25 ans. Et j'ai donc orchestré les projets. Avant ça, j'étais en restauration. Donc, j'ai eu un bar, un spectacle, mais j'ai été barmaid surtout pendant 10 ans. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'ai été au service des autres pas mal toute ma vie. Et c'est ce que je continue de faire en essayant de propulser les gens puis en mettant des outils à leur disposition. Maintenant, ce que je pense qui serait bien pour l'avenir, c'est qu'on ne perde pas nos noms acquis. Donc, on a accès à un système d'éducation puis un système de la santé qui sont assez particuliers, vraiment formidables. Puis, ça nous aide à réduire les écarts de richesse. Puis, il faut qu'on continue à s'investir et à investir dans la santé et l'éducation. Et le reste suivra probablement, je l'espère. Donc, en diminuant les écarts et aussi en ouvrant nos pensées, puis ça nous permettra d'avoir de meilleurs accès à nos ressources, puis accueillir des gens encore plus avec nous, les intégrer, puis les faire participer à cette super collectivité. Merci.
Marie Gagné est présidente directrice générale du réseau des CCTT, les Centres collégiaux de transfert technologique. Le leadership de Marie se déploie depuis plus de 20 ans au service de la recherche et de l'innovation. Elle est une gestionnaire chevronnée, elle excelle dans la formation d'équipes performantes où le plaisir et l'accomplissement vont de pair. Le réseau des CCTT, c'est 59 centres collégiaux de transfert technologique, soit 2400 professionnels dans tous les domaines, qui réalisent près de 10 000 projets en innovation technologique et sociale chaque année, et ce, à la grandeur du Québec. On aurait tort de croire que la recherche et l'innovation, c'est l'apanage du monde universitaire. C'est la synergie, collaboration et expertise multiples au service de l'amélioration des produits, des pratiques et des procédés des organisations de toute taille. L'essayer, c'est l'adopter, c'est le mantra de Marie.
Alors, bonjour tout le monde, Marie Gagné, je suis présidente directrice générale du réseau des CCTT. Vous me direz, c'est quoi un CCTT? Alors, un CCTT, c'est un centre collégial de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices. Ce sont des centres de recherche appliquée et d'innovation qui sont affiliés au réseau des cégeps et des collèges du Québec. Il y en a 59 au Québec, dans toutes les régions du Québec. Chacun se spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture à l'aérospatiale en passant par l'intégration des immigrants, des personnes en situation de handicap. C'est un réseau qui regroupe 2400 experts de l'innovation technologique et sociale, un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars par année. Puis, il y a une étude de KPMG de 2015 qui dit que chaque dollar investi dans le réseau des CCTT rapporte 12 dollars pour l'économie du Québec. Alors, mon rêve pour le Québec, c'est vraiment de se donner un projet de société. Je pense que l'hydroélectricité, ça a été un projet mobilisateur, porteur, qui nous a permis de nous projeter dans l'avenir. Puis ce que je souhaite, c'est qu'on se donne ensemble un nouveau projet. La clé, je pense que c'est la co-construction. Ce projet-là, c'est pas mon projet, c'est pas le projet de Charlot. Alors, je pense qu'il faut le développer ensemble pour que tout le monde le porte. Je pense que c'est ça, un projet de société. Puis c'est pas un projet sur 3 ans, c'est pas un projet sur 5 ans. Il faut se donner une vision d'avenir de qui on veut devenir. J'espère que ça va être ancré dans le développement durable, mais comme je le dis, ce projet-là, ce n'est pas mon projet. Il faut que ce soit notre projet.
Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires. Née en France, mais ayant grandi dans la Silicon Valley, Marine nourrit sa passion pour l'écriture depuis l'adolescence. C'est à la célèbre Sciences Po Paris qu'elle complète une maîtrise en management de la culture et des médias, spécialisée en presse et édition. Comme l'écriture débute toujours par une page blanche, c'est à Montréal qu'elle débutera sa carrière, avec zéro contact. Pensant y rester quelques mois, elle se dit aujourd'hui plus montréalaise que française. C'est à sa première embauche et première en affaires qu'elle découvre le monde des affaires québécoises. Déjà rédactrice en chef adjointe en début de vingtaine, Marine se tisse petit à petit un réseau de contacts et s'implique rapidement dans les causes qui lui sont chères, la culture, la littératie et la cause des femmes. Le karma est généreux avec Marine et les opportunités s'enchaînent. Elle sera rédactrice en chef avec Inspiro Média, puis avec la revue Gestion au HEC Montréal. Son grand rêve, c'est d'entrer au journal Les Affaires. Sans trop y croire, elle envoie sa candidature pour un poste de direction. Pas d'accusé réception, elle range rapidement son rêve. 15 mois plus tard, un appel, un café avec la rédactrice en chef, et la voilà dans la chaise de directrice de contenu du journal fondé en 1928 pour faciliter l'apprentissage des affaires pour les Canadiens français, nous rappelle Wikipédia. Marine, tout juste trentenaire, sera promue rédactrice en chef du journal, où elle pilotera avec doigté une importante transition qui suivra la sortie du giron de Transcontinental, ainsi que l'inévitable restructuration d'un secteur médiatique déjà en crise. C'est en misant sur un contenu de très haute qualité qui respecte les normes journalistiques et le maintien du journal imprimé, ce lien privilégié avec sa clientèle, ainsi qu'un support de la communauté des affaires, que le virage sera effectué avec succès.
Marine Thomas, rédactrice en chef de Les Affaires. Le journal Les Affaires, c'est un média économique spécialisé destiné aux gens d'affaires du Québec Inc. On a 14 numéros par année et on a une ligne éditoriale qui est vraiment tournée solutions. Pour nous, c'est important d'outiller et de guider les gens d'affaires dans leurs décisions. On a aussi un site internet qui se veut un site d'actualité économique et d'affaires. On a une très, très belle équipe de journalistes avec beaucoup d'expérience pour porter ce projet-là. Mon rêve pour le Québec, ce serait une grande mobilisation collective pour relever ensemble le défi qui nous attend et qui est sans contredit à mon avis, le défi du 21e siècle, qui est la grande transition écologique qui nous attend. Et je pense que le Québec est très bien placé pour relever ce défi-là, en tout cas pour apporter des pistes de solutions, parce qu'on a toutes les ressources naturelles et les ressources humaines pour réfléchir ensemble à apporter des solutions, en investissant massivement notamment dans les technologies propres. On a de la chance d'avoir une électricité propre ici au Québec, donc on a beaucoup de solutions qu'on peut apporter. Et mon rêve, c'est qu'on se mobilise ensemble, que les entreprises privées cessent de faire partie du problème, mais deviennent au cœur de la solution et qu'ensemble, le public et le privé et les citoyens se mettent ensemble pour apporter la première pierre à ce grand défi qui nous attend.
Louis-Félix Binette est directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Après des études en physique puis en traduction, Louis-Félix devient attaché politique aux affaires autochtones et à la réforme démocratique à Québec. Puis, il s'enrôle dans la diplomatie internationale, ce qui l'amène jusqu'à New York à titre de vice-consul. De retour au Québec, il a l'appel de l'entrepreneuriat et fonde FMCO, une boîte de conseils stratégiques, puis Esquad, génie collectif. Il apporte à la communauté les soirées Fuck Up Nights, puis les Creative Mornings, où il découvre le monde un peu fou des startups. Aspiré dans cet univers, rassembleur et engagé, on fait appel à son expérience pour diriger un tout nouvel organisme qui accompagnera la croissance de l'écosystème entrepreneurial innovant. En une demi-décennie, il a fait croître main le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, d'une bonne idée autour d'une pinte sur la main, à un organisme respecté dans tout l'écosystème start-up canadien.
Je m'appelle Louis-Félix Binette, je suis directeur général du mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, communément appelé MAIN. MAIN, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de stimuler, renforcer cet écosystème d'acteurs qui, au jour le jour, accompagne les entrepreneurs, les startups dans leur cheminement vers la croissance. Je suis habité par un défi pour le Québec qui est un défi mondial, on le sait, la transition écologique. Dans les 25 prochaines années, puis je suis peut-être généreux en disant 25 prochaines années, on va être confronté un peu partout dans le monde de façon différente à des transformations radicales. Transformations radicales qui vont être le résultat de choix radicaux qu'on va avoir fait collectivement ou résultat d'une absence de choix ou d'un refus de choisir qui va amener des conséquences radicales auxquelles il va falloir s'adapter. Donc, c'est sûr que le Québec va avoir un enjeu là-dedans, c'est-à-dire dans ce monde-là qui va être appelé à se transformer, qui va être appelé à faire appel à des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire. On a un choix que je vais caricaturer qui est celui d'être des consommateurs, des récepteurs, des esclaves de choix qui vont être faits par les autres, ou des proposeurs, des contributeurs, des innovateurs qui vont proposer au reste du monde des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire basées sur qui nous sommes, sur ce qu'on a développé ici au Québec d'assez unique dans les quelques siècles qu'on a eu d'occupation de ce territoire, de cohabitation avec les Premières Nations. Une des clés, je pense, pour relever ce défi-là comme nation, dans le grand concert des nations, c'est l'entrepreneuriat. Je suis convaincu, puis notre action à main, puis je pense la plupart des employés à main, on est convaincu que si on permettait à chaque Québécois, à chaque Québécoise, particulièrement les jeunes, partout sur le territoire, où qu'ils soient nés dans une famille entrepreneuriale ou non, si on leur donnait la capacité de rêver grand, de transformer leur indignation, leur observation, leur frustration, leurs désirs, leurs ambitions dans une capacité de changer le monde, même si tout le monde ne peut pas choisir l'entrepreneuriat, tout le monde ne choisira pas l'entrepreneuriat, je suis convaincu que si on trouvait des façons de rendre l'entrepreneuriat comme étant pas nécessairement une voie de carrière, mais une possibilité, une possibilité, une voie possible, on serait capable de s'équiper, puis graduellement, de devenir des proposeurs nets d'un monde meilleur.
Diana Orque, directrice exécutive de V1 Studio. Le parcours de Diana est depuis longtemps axé sur la voie entrepreneuriale. Dans son Pérou natal, elle produisait des bijoux et du savon fait à la main à l'âge de 12 ans. C'est naturellement qu'elle s'est dirigée vers le design au Cégep du Vieux-Montréal et complétait un baccalauréat avec majeur en design à l'Université Concordia, avec distinction s'il vous plaît. Après quelques années dans l'industrie du jouet et des textiles, elle revient à son alma mater chez District 3, l'incubateur entrepreneurial de l'Université Concordia. Toujours aussi passionnée par l'humain, l'innovation, la créativité et la pensée critique, elle fait le saut chez V1 Studio, un autre incubateur de Concordia qui est lui spécialisé dans l'accompagnement des chercheurs scientifiques vers une carrière entrepreneuriale. Parallèlement, elle fonde sa compagnie Go Coconut, qui fera un passage remarqué à l'émission Dans l'œil du dragon. Elle est aussi trésorière de l'Association des designers industriels du Québec.
Diana Orque, directrice exécutive des V1 Studio. V1 Studio, c'est un organisme à but non lucratif. Notre but, c'est de donner l'opportunité aux chercheurs, tous les chercheurs au Québec, d'explorer le monde entrepreneurial. D'un côté, on trouve des opportunités pour qu'ils puissent, on crée des opportunités pour qu'ils puissent développer les compétences entrepreneuriales pour explorer. Pas parce qu'on veut qu'ils deviennent tous des entrepreneurs nécessairement, puis il y a une différence, parce qu'on croit qu'en développant ces compétences-là, ils vont pouvoir explorer l'impact de leur recherche au-delà du milieu académique. Puis pour ceux que, oui, ils veulent explorer, puis ils veulent faire leur carrière, un parcours entrepreneurial, on crée des programmes, on donne du support pour pouvoir embarquer dans l'écosystème québécois pour continuer à faire un impact, finalement. Pour le Québec... Ah, attends, j'ai oublié quelque chose. Je vais ajouter dans la première partie. V1, on fait tout ça en partenariat avec les universités et les incubateurs. Parce que notre but, ce n'est pas de doubler les ressources qui sont déjà existantes. On a déjà beaucoup de choses, on est chanceux. Notre but, c'est vraiment de créer ces connexions-là et créer un pont pour que ça soit beaucoup plus accessible pour les chercheurs. Là, pour le Québec, mais moi, je suis migrante. Hein. Ça fait 15 ans que j'habite ici, c'est ma maison. J'ai appris le français, j'ai la chance d'être entourée des gens qui m'ont toujours donné du support pour me sentir à l'aise. Puis je crois que c'est parce que j'ai réussi à voir des gens qui ont compris mon parcours, puis il y a tout le temps eu de l'empathie envers moi. L'empathie pour que je puisse apprendre une langue, l'empathie pour que je puisse explorer un monde que je ne connaissais pas du tout. Et je crois que pour moi, ça, c'est la clé. En fait, si on veut créer l'innovation, il faut que l'empathie soit au cœur de tout ce qu'on fait. On oublie très souvent, on a tellement... on veut tellement avoir tous d'impact, mais on oublie très souvent tous les gens... toutes les parties prenantes. Puis si on pense à toutes les personnes qui font partie du parcours, quand on parle des entrepreneurs, leur expérience, mais aussi les besoins des incubateurs, les besoins des gens qui vont recevoir l'innovation, le besoin d'industrie, si on commence à poser plus de questions et des meilleures questions, je crois qu'on va pouvoir ramener des solutions pour pouvoir vraiment faire un impact, pas juste au Québec, mais vraiment au niveau mondial, avec tous les obstacles qu'on sait qu'on va avoir dans les prochaines années, malheureusement. Alors, pour moi, toujours l'empathie, les côtés humains. Je crois que si on prend le temps de s'écouter, de comprendre qu'est-ce que les autres vivent, on va pouvoir mieux développer des solutions pour pouvoir les aider et qu'on devient, on puisse ouvrir des portes pour tout le monde.
Nadia Koukoui est entrepreneure et directrice de V1 Studio. Ingénieure mécanique de formation, c'est en complétant une maîtrise en développement durable aux Pays-Bas que Nadia s'est passionnée pour les sujets qui concernent l'eau. Elle a notamment fait des recherches à l'UNESCO ainsi qu'à la Fondation OneDrop, la fondation de Guy Laliberté. Ensuite, elle se lance corps et âme en entrepreneuriat en fondant la start-up WaterGeeks, après avoir remporté le concours Coopératon. Aujourd'hui, elle se consacre à aider les entrepreneurs scientifiques au studio V1, en plus d'être une conférencière recherchée pour les sujets qui la passionnent, le développement durable, l'économie circulaire, la place des femmes en technologie et en entrepreneuriat, ainsi que les changements climatiques et l'intelligence artificielle.
Bonjour, ici Nadia Koukoui, directrice exécutive de Studio V1. Je suis ingénieure de formation et j'ai un parcours entrepreneurial dans le domaine des technologies propres. Mon signe astrologique est poisson, donc voilà, vous connaissez tout sur moi maintenant. Alors, pour le Québec, ce dont je rêve... Je rêve de beaucoup de choses, mais entre autres d'avoir plus de femmes en entrepreneuriat scientifique et technologique. Ça pourrait donner une nouvelle saveur, une nouvelle manière d'innover aussi pour le Québec. Et dans un deuxième temps aussi, je rêve qu'on shift, comme on dit en bon français, de nos objectifs, de ces mesures de performance qui sont très axées sur les dollars que les startups peuvent ramener pour des mesures de succès qui sont plus alignées avec nos valeurs et avec la réalité aussi des changements climatiques et puis de l'adaptation que notre société a besoin de faire. Donc voilà.
Guillaume Blum est professeur agrégé et chercheur à l'École de design de l'Université Laval. Il est membre fondateur du groupe de recherche design, innovation et humanisme et également membre du Réseau international d'innovation et de prospective et membre également du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Après un diplôme d'ingénieur, Guillaume Blum a cofondé Espace-Temps, un organisme dont il a été président, qui offre des services conseils stratégiques à des organisations publiques, culturelles, communautaires et sociales. En parallèle, il a effectué un doctorat en management qui touche aux enjeux de gestion de l'innovation, des connaissances dans le secteur aéronautique. Il a été vice-président de l'Association des designers industriels du Québec. Ses travaux portent sur l'innovation et le design, le numérique, les transformations sociales, les dynamiques de développement des savoirs dans divers secteurs professionnels, dont le logiciel libre, les grappes aéronautiques du Québec, les industries créatives et culturelles. À lire son mémoire dans le cadre des réflexions de la stratégie québécoise sur la recherche et l'innovation, où il parle de l'important rôle du designer dans la société.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Blum, je suis professeur à l'École de design de l'Université Laval. Alors peut-être le design, qui est une activité mal connue, je le résumerai de la façon suivante. Le design est aux sciences sociales, ce que l'ingénierie est aux sciences. Donc il s'agit de comprendre les besoins humains, essayer en fait de faire des études sur la société qui utilisent différentes acquis des différentes sciences sociales, donc psychologie, sociologie, anthropologie, etc., pour comprendre un petit peu l'utilité, la façon dont les gens interagissent avec des objets, avec des produits, entre eux également, et amener à partir de ça des pistes de solutions à travers toute une méthodologie qui est issue du design. Et de ce point de vue-là, le design, on peut le considérer comme une approche, une théorie et une pratique de l'innovation. Je voudrais parler un petit peu de notre dernier bébé à l'école de design, qui est une des formations dans lesquelles j'enseigne, qui est le bac en design de produits. où justement on donne en fait les clés à nos étudiantes et à nos étudiants pour porter en fait comme designer ces innovations à la fois sur les produits qu'ils développent et sur les modèles économiques à travers l'entrepreneuriat pour qu'ils soient capables de trouver un chemin dans la société, un chemin qui n'est pas juste sur les bancs universitaires, mais qui trouve aussi sa place comme une forme de réalisation quand c'est possible de le faire. Qu'est-ce que j'entrevois en fait dans le futur ou si je porte un regard un petit peu plus vaste sur les enjeux d'innovation? D'abord en fait un constat que l'innovation en fait bien souvent c'est un terme qui est un peu galvaudé pour avoir un discours qui porte sur la modernité et puis qui soit contemporain, qui soit un petit peu un effet de mode. Donc on parle d'innovation, mais sans nécessairement savoir de quoi il s'agit. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en amont? Ben, le design, d'une certaine façon, c'est une réponse à cette question. C'est amener du sens à cet enjeu, en fait. Quelle innovation qui est importante, étant donné les défis multiples auxquels on va avoir à relever dans le futur, donc des défis sociaux. On parle de vieillissement de la population, on parle d'enjeux de santé, on parle de pauvreté, on parle d'immigration, mais aussi les défis environnementaux. On parle de changement climatique, on parle de baisse de la biodiversité, etc. Et sur ces différents points, travailler, on va dire, avec des designers peut amener à des pistes de solutions. Évidemment, un designer ne sera jamais la seule solution, mais il peut contribuer à faciliter et à traduire différents éléments techniques, le langage de l'ingénieur, le langage de différents experts, en fait, dans un usage, un produit, un service, des méthodes de gestion qui vont être adaptées aux besoins de la société.
Sabrina Hombourger est chercheure et professeure en marketing à l'Université TELUC. L'histoire d'amour de Sabrina avec le Québec remonte au milieu des années 90, où elle était venue à HEC Montréal, au départ pour un an, elle y restera finalement 3 années. Maîtrise en marketing en poche, elle retourne dans son pays natal, la France, et y occupe plusieurs postes en vente et direction marketing dans le commerce de détail pendant une dizaine d'années. Elle décide ensuite de s'engager dans une carrière académique et débute un doctorat à l'Université de Bourgogne sur le design de l'expérience client. En 2011, l'opportunité de retrouver son pays d'adoption se présente et Sabrina rejoint le corps professoral de l'École des sciences et de l'administration à l'Université TELUC. Ses activités de recherche et d'enseignement actuelles se concentrent sur l'évolution des modèles d'affaires dans le commerce de détail et la transformation numérique dans l'enseignement supérieur.
Sabrina Hombourger, je sais déjà mon nom, c'est déjà tout un concept en soi, donc on va dire Sabrina. Je suis professeure de marketing, donc c'est un gros mot là ici, à l'Université TELUC et je suis très très contente d'ailleurs de participer à cette mission de mon université qui est en fait de développer l'accessibilité du savoir. L'Université TELUC, en fait, fête ses 50 ans cette année, fait partie, en fait, du réseau des universités du Québec et propose, en fait, aux étudiants un modèle très spécifique qui est donc la formation à distance, mais asynchrone. Donc, ce qui permet véritablement de concilier ses études avec son travail, sa famille et toute autre préoccupation et occupation. Donc, j'aime beaucoup ce modèle d'enseignement qui, pour moi, est un modèle d'avenir. Et je pense aussi que j'aimerais beaucoup participer, en fait, à la réinvention de l'enseignement supérieur. Un modèle un petit peu d'université de demain qui serait beaucoup plus ancré sur les enjeux à venir de nos sociétés. Notamment en tant que professeur de marketing et donc à former les gestionnaires de demain, j'aimerais beaucoup en fait pouvoir contribuer au développement de compétences qui sont vraiment au-delà du savoir ou du savoir-faire, tout simplement des compétences de savoir-être. C'est un peu les fameux soft skills là dont on parle, mais je pense que ça c'est, j'allais dire, la clé pour demain. C'est vraiment, en fait, développé auprès de nos étudiants, jeunes et moins jeunes, puisque là, maintenant, on est plutôt sur des concepts de formation tout au long de la vie. Et je trouve ça, d'ailleurs, très, très positif, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais c'est vrai que construire cette société de demain, former les gestionnaires de demain, c'est effectivement travailler sur des modèles d'affaires pour les futures organisations, un petit peu alternatifs au modèle dominant très capitaliste. On est quand même au Québec, le pays où, qui a inventé des modes organisationnels comme la coopérative, dont on parle partout dans le monde. Et je pense qu'il faut faire du pouce sur ces modèles-là qui sont beaucoup plus ancrés dans les valeurs en fait, des Québécois que d'autres modèles en fait, copiés sur nos voisins américains. Donc voilà.
Coriel Boffy est directeur principal Société et culture chez Axelis. D'abord formé en marketing au HEC Montréal, tisser des liens sur la scène internationale est un art que maîtrise Coriel et dans lequel il s'est illustré notamment à l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à Montréal International où il a, entre autres, piloté un grand projet qui aura pour résultat de faire de Montréal l'une des villes hébergeant Future Earth, une ONG qui regroupe des milliers de chercheurs et innovateurs mobilisés pour changer le monde. Promoteur d'une recherche plurielle, il contribue de faire d'Axelis le catalyseur d'impact de la recherche publique québécoise, qu'elle soit médicale, sociale, technologique, littéraire ou artistique.
Bonjour, moi c'est Coriel Boffy, je suis directeur principal en société culture chez Axelis. Axelis, on est la société de valorisation de la recherche publique pour l'ensemble du Québec. Donc, notre but, c'est d'augmenter la prospérité économique, sociale, environnementale et culturelle de tous les Québécois. Ça, c'est vraiment important. On est société de valorisation, deux mots importants, valeur et société. Mon rêve pour le Québec, moi, c'est je constate que le Québec s'est bâti sur des ressources qui, au départ, c'est les Premières Nations qui ont bien intégré le territoire, qui ont bien su comprendre l'environnement des ressources dans lequel on évoluait, sur des ressources donc physiques, matérielles, le bois, l'eau, les richesses naturelles, de la biodiversité. Et c'est aussi basé sur des ressources humaines, donc les gens provenant de diverses Premières Nations, mais aussi des gens de toutes les cultures qui se sont installés successivement au Québec, et sur des ressources de la connaissance aussi, donc des environnements, oui, de recherche universitaire, mais aussi au collège et dans les cégeps, qui ont été aussi de nouvelles ressources. Et donc, et à partir de ces ressources-là, on a fait des grandes choses. On a fait l'hydroélectricité, oui. On a participé à la création d'organismes et d'institutions internationales, de structures, de supports, de bien-être collectif. Et je pense que pour le futur, on doit continuer à maximiser la diversité de ces ressources-là. Donc, de ne pas investir dans la monoculture du savoir, de ne pas investir dans la monoculture culturelle, et vraiment de maximiser la diversité sur tous les fronts. Les Québécois, on a une caractéristique qui, je pense, est partagée entre la plupart de nous tous et qui est reconnue à l'international, c'est qu'on est des pros de la collaboration. Donc, on est des personnes bienveillantes le plus souvent. Et on essaie vraiment de collaborer ensemble et dans une perspective de consensus. Donc, c'est en maximisant la diversité des ressources et la mise en commun de ces diverses ressources-là que je pense qu'on va avoir notre marque sur la prospérité économique, sociale ou des changements climatiques dans le futur.
Marie-Pierre Cossette est directrice au Grand Défi de Société au Bureau du scientifique en chef au Fonds de recherche du Québec. Elle est titulaire d'un doctorat en neurosciences de l'Université de Concordia et elle s'intéresse rapidement à la recherche intersectorielle dès ses études supérieures. Elle est très tôt impliquée dans le comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec, où elle fut la toute première présidente. C'est là qu'elle fait la rencontre de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Quelques années plus tard, Rémi Quirion la recrute dans son équipe. Au bureau du scientifique en chef, Marie-Pierre s'affaire alors à bâtir les ponts entre les cultures de la recherche et de l'entrepreneuriat. Elle est responsable du développement de divers programmes de maillage. Les mots d'ordre sont créativité, curiosité, audace. Promue directrice au Grand Défi de Société avec une toute nouvelle SQRI au carré, qui rehausse les budgets des FRQ, Marie-Pierre a les coups des franges pour contribuer à faire rayonner la recherche publique. Elle est une des premières fans du balado La Calépaule. C'est un peu beaucoup grâce à elle que le projet a pu voir le jour. On peut d'ailleurs l'entendre poser quelques brillantes questions dans les épisodes de la saison 1. Merci Marie-Pierre.
Alors, Marie-Pierre Cossette, je fais partie de la direction au Grand Défi de Société, au Bureau du scientifique en chef. Alors, les fonds de recherche du Québec, c'est une bibitte intéressante. Il y a trois grands fonds, Société Culture, Santé, Nature et Technologie. Dans chacun de ces fonds-là, il y a beaucoup de recherche fondamentale qui est soutenue, orientée, appliquée, toutes sortes de programmes. Et au-dessus de ça, pas au-dessus, mais en complément à tout ça, y a de l'argent qui vient aussi de la Stratégie québécoise de recherche et d'innovation et de partenaires et tout. Et le scientifique en chef nous fait confiance dans cette direction-là pour aller vraiment vers des besoins de société, donc grands défis de société. Donc, on a toute une programmation. C'est beaucoup axé sur le maillage entre les différentes parties prenantes et entre les différents secteurs de recherche. Et c'est directement lié à ce que j'aimerais pour le Québec. Donc, bien sûr, je suis dans une équipe qui est en lien avec ce que je souhaite pour le Québec, ce qui fait toujours du bien d'être à un endroit professionnel où on essaie de faire avancer ce qu'on voudrait pour le Québec, là. Mais je dirais que la mixité des savoirs, la diversité des savoirs, c'est vraiment hyper important. C'est sûr que la recherche, la science, c'est difficile de dire que c'est pas important, mais en même temps, si personne en veut, c'est pas important. Donc, moi, j'aimerais que pour le Québec, on s'appuie sur la recherche, oui, mais on fait confiance aussi au savoir expérientiel, pardon. Il y a toutes sortes de noms, là. Savoir endogène, savoir de pratique. Mais c'est important d'amener des personnes citoyennes venir s'asseoir avec des chercheurs, de sortir le chercheur pour qu'il aille s'asseoir avec des personnes citoyennes. Quand ils ensuite nous racontent ce qu'ils font ensemble puis qu'est-ce qu'ils essayent de comprendre puis de connaître puis de développer, c'est une toute autre... c'est merveilleux, c'est différent, c'est déstabilisant, ça nous amène ailleurs. Puis en soi, c'est audacieux, ça inspire, puis il y a certaines personnes qui ont le goût d'attraper ça puis d'aller encore plus loin. Donc, je nous souhaite de laisser ces collisions-là arriver. Je vous ai donné l'exemple des citoyens, mais juste s'écouter, essayer de se comprendre. Et c'est beaucoup la diversité pour moi, c'est juste ça, diversité de trajectoire. Dans la direction, on essaye le plus possible de présenter des perspectives de carrière à la relève en recherche. Puis encore une fois, je pense que c'est une manière de faire ça, de leur dire, ben vous pouvez aller où vous voulez. Puis c'est à vous de montrer au milieu qui vous accueille que vous avez quelque chose à offrir. Puis, ben, on va continuer à parler avec les milieux d'accueil pour qu'ils trouvent que c'est incontournable d'avoir de la relève en recherche, même de leur faire des postes systématiquement, mais pas dans le néant, dans le milieu d'accueil. Donc, la science toute seule, pas important, mais la science un peu partout, accueillie, sentie, pressentie pour plein de choses. C'est ce que je nous souhaite, mais vraiment ultimement pour la diversité des savoirs. Pour qu'on puisse se parler, se comprendre, puis faire des choses ensemble, c'est tout.
Franck Barrès est chercheur et professeur titulaire en entrepreneuriat au HEC Montréal. Après avoir décroché un doctorat en gestion à l'Université de Lorraine, Franck dirige le département d'entrepreneuriat et innovation d'ICN Business School, une prestigieuse grande école de management française qui a la particularité de favoriser un maillage entre l'art, la technologie et la gestion. À son arrivée à Montréal, il entre comme professeur au HEC, où il participe de près à la fondation du département d'entrepreneuriat et innovation. Il en sera directeur de 2015 à 2008. En plus de ses charges d'enseignement, Franck mène des recherches en entrepreneuriat et particulièrement sur les écosystèmes d'accompagnement et de soutien aux projets à fort potentiel de croissance. En plus de nombreux articles et de contributions, il publie tout récemment le livre « Startup Tribu », dans lequel il propose une approche audacieuse où la communauté est centrale dans la démarche entrepreneuriale.
Je m'appelle Franck Barrès, je suis professeur titulaire à HEC Montréal au sein du département Entrepreneuriat et Innovation. J'enseigne des cours de création d'entreprise et je suis particulièrement intéressé par les acteurs de l'accompagnement, en fait, toutes les ressources qui peuvent à un moment donné outiller et venir en fait en appui aux entrepreneurs dans les différentes séquences ou les différentes phases du processus entrepreneurial. Je suis moi-même en fait coach professionnel certifié. J'essaie de poursuivre, on va dire, une démarche de montée en compétences et d'essayer en fait d'améliorer ma pratique. Alors, le département d'entrepreneuriat et d'innovation, c'est un jeune département qui a été créé en 2015. On est une quinzaine d'enseignants-chercheurs et l'objectif, en fait, de ce département a été vraiment de pouvoir regarder un même objet, à savoir l'entrepreneuriat et l'innovation, mais avec des couleurs qui étaient différentes, une singularité. Et pour cela, on est allé chercher des collègues avec des arrivants de départements différents, de finance, de l'international, de marketing, de management, et tout cela pour en fait essayer une fois de plus de pouvoir croiser les regards et de pouvoir outiller le mieux possible nos étudiants, quels que soient les profils, les diplômes, les parcours, à la fois sur une montée, en tout cas un partage ou un transfert de connaissances, mais également de la recherche pour faire, on va dire, rayonner le Québec et aussi aller chercher ce qu'il y a de meilleur ailleurs pour pouvoir, une fois de plus, partager ses connaissances et puis surtout être ancré dans la vraie vie, dans la réalité et de pouvoir faire du transfert dans les milieux. Aujourd'hui, en fait, ce qui me semble important et ce sur quoi je pense que mes collègues pourraient embarquer avec moi, c'est une envie, en fait, une envie qui est de pouvoir collaborer, de pouvoir faire en sorte qu'on ait de la relève et de jeunes qui aient envie de faire de la recherche, mais une fois de plus de la recherche en fait qui soit au plus près de la réalité et une fois de plus pour faire en sorte que le Québec puisse rester en particulier un acteur très important dans la réussite scolaire et avec des modèles universitaires qui peuvent faire, on va dire, des jaloux ailleurs dans le monde.
Jean-Michel, c'est mon collègue du mouvement des accélérateurs d'innovation. Normalement, Jean-Michel était là pour donner un coup de main, réserver les trucs, s'assurer que tout le monde est transporté, etc. Mais il s'est intéressé aux discussions de plus en plus au point d'intervenir à quelques reprises dans quelques épisodes. Donc, Jean-Michel, je te fais une belle place dans le balado. Merci d'être là. Merci de m'aider à faire en sorte qu'on ait... Ouais, on est équipé pour changer le monde, hein? Deux personnes à la fois maintenant.
Voilà. Jean-Michel Lafontaine, coordonnateur événementiel, en fait, espace de collaboration au sein du mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. J'ai un parcours qui est un petit peu plus atypique. Je vais prendre un peu plus le temps de mentionner ce que j'ai fait qu'hier, quand on n'a pas enregistré. J'ai à la base un bac en communication, après ça, je suis allé vers le domaine du tourisme. On fait tous des divergences, on va dans d'autres chemins. J'ai passé par la technique policière aussi, personne ne le savent. Mais j'ai finalement abouti au mouvement des accélérateurs d'innovation un peu par la bande lors de mon stage, lorsque je recherchais en fait un stage en événementiel l'année dernière. C'est un domaine que je connaissais pas du tout, zéro. L'entrepreneuriat pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui était partie prenante de moi, si je peux dire. Mais j'ai découvert un secteur et surtout un écosystème qui est très vivant et qui est beaucoup plus grand que ce que je croyais au Québec. Les accélérateurs, incubateurs, en fait, tout le vocabulaire en ce qui a trait à l'écosystème des startups au Québec m'était inconnu. Et je me rends compte qu'au final, on a quelque chose de grand entre les mains au sein de la province et que, comme je le mentionnais lors de diverses conversations, qu'il faut écouter les régions. On a quelque chose de grand ici, les régions sont importantes, Montréal est important, mais ce qui se fait dans le bas du fleuve, ce qui se fait aux îles de la Madeleine, ce qui se fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean est tout aussi important. On vise On vise des secteurs différents, on vise des domaines un peu plus dans la foresterie, dans les aspects maritimes, dans la technologie, certes, mais il y a des affaires qui se font de très belle façon ailleurs aussi. Puis il y a quelque chose que je voulais mentionner, que hier j'avais omis. On est dans une période un peu de pénurie de main-d'œuvre. On a fait d'ailleurs un baromètre avec le mouvement là, récemment. Et on a eu l'occasion, lors des appels réseau, d'avoir une intervenante qui nous parlait d'une neurodivergence. Et j'ai trouvé ça très important parce qu'on se permet de se dire qu'on peut avoir ces personnes-là qui vont être présentes au sein des organisations et qu'il faut les accueillir à bras grand ouvert parce que ça peut être eux qui vont amener plus loin la réflexion et qui vont permettre justement aux entreprises de demain de grandir plus rapidement et de devenir en soi des fleurons au Québec. Donc, je crois que on ne peut pas fermer la porte à personne présentement. On se doit d'utiliser toutes les ressources nécessaires afin d'amener le Québec de demain plus loin. Donc, voilà, c'est ce que j'espère pour le Québec de demain. Hein, hein? La deuxième shot est meilleure.
Ça va être cool.
Hey, très bonne. Hey, ben, vous pouvez rester si ça vous tente. Hey,
bon, ben, Louis-Félix me faisait des signes, là, comme fais ça court. On me connaît pour cette capacité de dire n'importe quoi pendant longtemps, mais aussi de dire des choses plus condensées. Donc oui, Charles-Olivier Roy, je suis baladeur en résidence chez Mouvement des accélérateurs d'innovation. Puis le projet La Calépaule, ben, c'était un peu une folie, tu sais, me dire « bon, on va essayer quelque chose d'autre ». Ah! Ben oui, avec plaisir! Alors, je vais recommencer. Donc, là, ça m'enlève 12 secondes sur mon discours. Alors, voilà, donc, c'est pas grave, j'en étais où? Oui, donc, on reprend. Alors, voilà, c'est ça. Puis, ce projet-là est un peu fou parce que l'idée à la base, c'était de donner du temps aux gens, tu sais, de les sortir de leur quotidien, d'une vie de fou pour à peu près tout le monde, puis de les amener dans un endroit complètement... reclus, là, t'sais, se sortir de notre quotidien puis d'offrir du temps aux gens pour venir discuter, parler, puis apprendre, t'sais, des autres aussi. Puis moi, je suis comme gâté parce que j'apprends, t'sais, de tout le monde. Donc, je me paye quand même quelque chose de super intéressant pour quelqu'un comme moi qui aime apprendre, mais j'aime ça aussi pouvoir transmettre ensuite tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre. Puis je me surprends souvent à reprendre des petits bouts de discours que j'entends, puis de... Tu sais, moi, je veux dire, ça fait du sens, ça change mon prisme, puis j'arrive à tu sais ça, peut-être à faire un petit peu d'influence envers d'autres ensuite. Puis je trouve que c'est fabuleux, c'est fantastique. Puis je pense que c'est ça qui est notre grande richesse aussi, là, tu sais, d'avoir un savoir, tu sais, un savoir collectif, mais d'être capable aussi de rester humble avec tout ça, puis d'être généreux aussi envers les autres, puis d'accepter de venir, tu sais, vous avez tous des vécus, des expériences, des statuts, des positions dans la société, mais vous avez accepté de venir dans un lieu... Ben, écoute, on n'est pas au Hilton 5 étoiles, là, on est ailleurs, mais on vient chercher quelque chose, puis je suis convaincu que vous allez retourner à la maison avec une petite différence, un petit changement dans tout ça. Donc, tu sais, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer de miser sur le savoir. Je pense qu'on prend des bonnes décisions quand on a les paramètres, puis on compte sur la recherche, mais on compte, je trouve ça intéressant, sur l'expérience aussi, le contact. On en parlait, tu sais, de la vérité en entrepreneuriat, ben c'est le marché, c'est lui qui va te le dire. Donc, tu sais, il y a une pertinence de faire les deux en même temps. Il n'y a pas d'opposition nécessairement. Donc, tu sais, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir une société qui progresse. Pour moi, le progrès, c'est d'amener une société vers son idéal. Puis pour ça, bien, ça passe par l'entrepreneuriat. Puis une définition de l'entrepreneuriat pour moi qui est de voir un problème puis d'en apporter une solution puis d'aller plus loin que juste dans la réflexion, mais vraiment dans l'action. Donc, que ça soit moi directement ou sinon de mettre en place les éléments pour que le problème soit résolu. Il y en aura toujours des problèmes, là, mais il y en a qui sont plus urgents que d'autres. On a parlé beaucoup des changements climatiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la jeunesse, les jeunes, les enfants. Moi, c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Puis si aujourd'hui on travaille à bâtir un monde meilleur, ben tu sais, nous autres, il nous en reste de moins en moins, mais eux autres, ils en ont encore beaucoup. Donc pour moi, c'est super important qu'on lègue quelque chose à notre prochaine génération, puis l'autre suivante, qui sera un petit peu moins pire que qu'est-ce qu'on a eu. Fait que voilà. Donc j'aspire à ce qu'on travaille ensemble, qu'on réussisse.
C'est comme ça que se conclut cet épisode tiré du Lac à l'épaule à l'île aux grues. J'espère que vous avez apprécié les présentations de nos participantes et participants. Plein d'autres discussions super intéressantes et inspirantes que j'ai pour vous en banque. Donc, dès l'année prochaine, hein, début 2023, je pourrai vous partager ce contenu-là. Vous allez aimer ça, apprécier, j'en suis convaincu. Lac à l'épaule est une production en collaboration avec le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On va changer le monde. On est de plus en plus. Merci d'être à l'écoute. Merci de partager, de parler du projet. Si vous aimez ça, abonnez-vous sur votre chaîne préférée de balado pour qu'on puisse se faire connaître. Merci. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt pour un autre Lac à l'épaule.